au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 16 mars, j'espère que vous avez passé une bonne journée. À l'émission aujourd'hui, Thibaut Quinchon, il est porte-parole d'un nouvel organisme qui est dédié à la sauvegarde de l'environnement en Matawini. Également avec Pierre Paquette, on aura l'occasion de parler de Donald Trump qui réclame l'aide des alliés dans le détroit d'Ormuz. Aussi, Stephen Guilbeault, ex-ministre de l'Environnement, sera avec nous. Il sera question du projet de train à grande vitesse. Le chef du Conseil des Atikameks de Manawan, Sibi Flamand, sera là. On va parler de gestion participative en foresterie également. Adrienne Charles, candidate conservatrice dans la partielle fédérale de Terrebonne. Mais tout d'abord, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Chantal Rouleau, qui parcourt actuellement le Québec là, pour entendre les revendications du milieu. Et elles sont nombreuses. Elle était de passage aujourd'hui, d'ailleurs, en tournée dans la région de Lanaudière. Bonjour, Mme Rouleau.
Bonjour.
Et elle était accompagnée du député de la circonscription de Joliette, François Saint-Louis. Bonjour, François Saint-Louis.
Bonjour.
Tournée aujourd'hui qui vous a amené à Joliette dans un organisme qui s'appelle La Soupière cet après-midi. Est-ce qu'on peut dire que le monde communautaire est en crise actuellement, Mme Rouleau?
Ben, le monde communautaire a besoin de s'exprimer et justement, je suis là pour entendre ce que le monde communautaire a à dire parce que depuis plusieurs années déjà, je travaille avec eux à titre de ministre de l'Action communautaire. Et là, je sais que, bon, il y a certaines revendications, mais des revendications auxquelles on répond régulièrement et auxquelles on a répondu dès notre arrivée en poste comme gouvernement. Par exemple, sur le plan financier, on a mis en place le plan d'action gouvernementale en action communautaire. On a doublé le financement à la mission des organismes. Mm-hmm. Et on met en place des mesures pour aider les organismes à mieux s'organiser là en termes de gouvernance pour une meilleure rétention des employés. Alors, on parle de ça. Je fais une tournée à travers le Québec. Je les rencontre régulièrement, les organismes, à travers le Québec et aussi à mon bureau lorsqu'ils viennent me voir.
Oui. Puis,
pour essayer de trouver ensemble de nouvelles solutions aussi.
Le milieu communautaire met de la pression présentement, sachant que le plan d'action gouvernementale en matière d'action communautaire arrive à terme là, cette année. Et là, on parle d'un débrayage général là, dans le milieu communautaire. On y va par, si on veut, des grèves rotatives là, dans le milieu communautaire actuellement.
Depuis plusieurs mois, en fait, je rencontre les organismes dans leur milieu pour discuter puis voir quelles sont les solutions. Bien sûr, les gens disent, ben on a besoin de plus d'argent, d'accord, mais on a doublé le financement à la mission. On a concentré le financement du gouvernement à la mission des organismes pour la première fois, et ça, c'était attendu depuis 15 ans par les organismes. Alors, c'est quand même important.
Pour sa part, le milieu communautaire réclame de faire débloquer 155 millions. Est-ce que le gouvernement peut appuyer ce 155 millions?
Bien, 155 millions, ça dépend qui je parle, parce que parfois c'est 50 millions, parfois c'est 100 millions, parfois c'est 1 milliard. Alors, ça peut varier.
Ça varie d'un organisme à l'autre et peut-être
oui,
d'une région à l'autre aussi.
D'une région à l'autre,
ouais.
Puis des besoins. Mais on est certainement là pour être très à l'écoute. Et ce que je fais, moi, à l'heure actuelle, c'est beaucoup travailler sur la reddition de comptes. Et ça semble ordinaire, là, mais ça permet d'économiser des dizaines de milliers de dollars pour les organismes. Ça permet aux organismes de se concentrer sur leur mission plutôt que d'être obligés d'écrire des pages et des pages et des pages de reddition pour des montants parfois qui sont moins importants. En fait, je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille à concentrer les argents sur la mission. Je suis très à l'écoute du milieu communautaire et il y a certainement des solutions qui pourront au fil des prochaines semaines, prochains mois, être mises en place.
Mais est-ce que vous croyez que les coffres sont vides à ce niveau-là? Parce que là, on s'en va en campagne électorale, il va falloir faire des promesses pour le milieu communautaire.
Bien, des promesses. Déjà, on a augmenté le financement des organismes communautaires de beaucoup. Pour certains types d'organismes, les CDC par exemple, on a confirmé des financements extrêmement importants pour des CJE aussi. On a remis le financement à la mission pour les 110 organismes CJE. On a augmenté de 26% le financement des organismes de défense des droits. On investit beaucoup au niveau de la sécurité alimentaire, et ça, c'est quelque chose de plutôt important, parce que là, j'arrive de la Soupière, par exemple, ici à Joliette. Et partout dans toutes les régions du Québec, l'aide alimentaire est devenue un enjeu, ce qui n'était pas avant. Mm-hmm. Avant la pandémie, ça n'existait pratiquement pas, que le gouvernement investisse.
Il y a davantage de demandes.
Il y a beaucoup de demandes, et c'est de l'argent qui va en partie pour de l'achat de nourriture, mais beaucoup aussi pour les organismes communautaires. On a déposé en juin 2024 le plan de lutte à la pauvreté. C'est 3,4 milliards de dollars avec 750 millions de nouvel argent qui sert pour les organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes qui sont en situation de précarité. Alors, on en met de l'argent, beaucoup, et on continue à travailler avec les organismes et je continue à être très à l'écoute de ces organismes.
Je sais, justement, oui, vous êtes à l'écoute de ces organismes-là. Vous l'avez toujours été en tant que ministre. Mais Mme Rouleau, est-ce que vous vous attendez à avoir de l'appui de ces organismes-là lors de la prochaine campagne électorale? C'est là la question, parce que ça prend l'appui du milieu communautaire.
C'est certain que l'appui du milieu communautaire, il est très important pour n'importe quel gouvernement, mais je tiens à rappeler que lorsque nous sommes arrivés en poste, les organismes attendaient depuis 15 ans pour avoir un plan d'action gouvernemental en action communautaire. Et c'est ça qu'on a fait. Aussitôt qu'on est arrivé, on a fait une consultation auprès des organismes communautaires et on a déposé ce plan avec une enveloppe supplémentaire de 1,1 milliard de dollars. Aujourd'hui, on est à 2,2 milliards de dollars d'investissement dans les organismes communautaires. Et ça, c'est de l'argent réel, là. Alors, oui, évidemment, le coût de la vie augmente pour tout le monde. Les conditions économiques après la pandémie, notre voisin du Sud qui prend de très drôles de décisions qui ont un impact sur l'ensemble de notre société. Bien sûr, on agit, on réagit, on est proactif aussi et on travaille avec le milieu communautaire. Est-ce qu'on peut répondre à 100% des demandes? Comme je vous l'ai dit, là, vous me parlez de 150 millions,
oui.
Mais d'autres vont me dire 200 ou 50 ou 1 milliard. Alors là, il faut relativiser tout ça, puis il faut trouver quels moyens on peut mettre en place ensemble en discutant correctement, comment on peut faire en sorte que les organismes puissent vraiment se concentrer sur leur mission et pas nécessairement déborder de leur mission aussi.
Oui.
Ça aussi, c'est important. Alors, il y a un travail à faire là, de part et d'autre.
Madame la ministre Chantal Rouleau, merci de votre passage à CFNJ. Et en terminant, François Saint-Louis, député de la circonscription de Joliette, vendredi dernier, il y a eu manifestation devant vos bureaux de regroupement communautaire.
Tout à fait. Puis malheureusement, moi, j'étais à l'extérieur. J'étais à la TUC vendredi dernier pour la signature de l'entente en foresterie avec la communauté Atikamekw. Ceci dit, les gens qui sont venus manifester devant mon bureau ont été accueillis par mon directeur de bureau. Il y a eu des discussions, moi aussi, très, très ouvert à discuter, à être à l'écoute des organismes. Pour ceux qui me connaissent, d'avant mon arrivée en politique, j'étais bien impliqué dans mon milieu. J'ai été à la manne quotidienne au conseil d'administration pendant plus d'une décennie. J'ai aussi été à Centraide, donc j'ai cette sensibilité-là, et cette écoute-là, donc ma porte est toujours ouverte.
François Saint-Louis, député de la circonscription de Joliette, Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, merci de votre passage.
Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un moment, Adrienne Charles, candidate du Parti conservateur dans la partielle fédérale de Terrebonne.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas, dépanneur des Lacs. À Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard. À Saint-Ursule, dépanneur Marie-Lou. À Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir. À Saint-Paulin, boucherie 4 saisons. Et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Bonjour, c'est Kim de Chaillet Nissan. Chez nous, chaque membre de notre équipe est totalement dédié à vous offrir la meilleure expérience possible et un service personnalisé. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Rock à Joliette, là où l'expertise rencontre la passion. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Dans la Naudière, on prend le temps. Le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand. CFNG.
La Naudière PM. Politique fédérale.
16h17, la candidate du Parti conservateur du Canada lors de l'élection partielle dans Terrebonne, Adrienne Charles, entend bien causer la surprise le 13 avril prochain. Celle qui a obtenu près de 11 000 votes l'an dernier veut pouvoir compter sur l'appui là, des électeurs qui, selon elle, sont tannés du marasme politique actuel. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de la rencontrer.
Madame Charles, on a beaucoup parlé de vos adversaires récemment, Nathalie Sinclair-Desgagnés, Tatiana Auguste. Peut-être nous rafraîchir la mémoire sur votre parcours personnel.
Donc, je suis enseignante de sciences au secondaire. Sinon, avant ça, j'ai travaillé 25 ans dans le domaine de la santé, plus précisément dans le domaine de la biologie médicale, volet clinique.
Vous voilà un nouveau candidat pour le Parti conservateur du Canada dans l'élection partielle du 13 avril prochain dans Terrebonne. On peut parler de résilience aussi, si.
Nous, au Parti conservateur, on a l'intention de se battre. Bien entendu, dans les médias, on parle beaucoup de la candidate libérale ainsi que de la candidate du Bloc parce qu'on connaît tout ce qui a enchaîné, un voix qui fait que l'élection est remportée par le Parti libéral. Mais nous, au Parti conservateur, on n'a pas l'intention de nous laisser impressionner par ça. On a l'intention de faire notre place, de nous battre, d'aller chercher nos votes, comme on l'a démontré, comme on l'a fait en avril passé. Donc, je pense que vous pouvez voir qu'il y a vraiment un souffle conservateur sur Terrebonne. Nous avons augmenté notre suffrage. Nous avons doublé nos votes. On est allé chercher quand même 18 % de l'électorat. Donc, je pense qu'il y a un élan conservateur à Terrebonne et c'est ce qu'on va continuer de faire, c'est ce qu'on va continuer de pousser pour.
On vise plus haut, à l'évidence. On pense déjà, par contre, à une autre course serrée entre libéraux et bloquistes. Comment allez-vous faire pencher la balance, justement, un peu plus de votre bord?
Bien, dans un premier temps, je vais demander à tous les conservateurs de voter conservateur. On a besoin de vos votes. Et en même temps, je vais demander à tous ceux qui sont tannés du marasme politique actuel, tous ceux qui veulent un réel changement à Terrebonne, de se joindre à nous. Je suis une candidate de terrain. Je suis une candidate qui a du front, qui n'a pas peur d'affronter ce qui semble être plus grand qu'elle. Actuellement, si on regarde le contexte, on pourrait dire qu'on n'a pas d'affaires là. Mais oui, on a de l'affaire là. Puis j'ai pas l'intention de me laisser impressionner. Je ne suis pas une candidate poteau, je ne serai pas une plante verte. Moi, je suis prête à me battre pour Terrebonne. J'habite Terrebonne depuis 20 ans. Je fréquente les rues de Terrebonne. J'ai élevé mes enfants à Terrebonne. Mes parents habitent à Terrebonne. Donc, j'ai Terrebonne. J'ai l'ADN de Terrebonne dans le sang et je veux me battre pour Terrebonne parce que les décisions qui vont être prises pour Terrebonne vont me toucher directement. Alors, je suis là pour Terrebonne. J'espère rallier tous les Terrebonniens derrière moi.
On a déjà cerné les enjeux, là, les vrais enjeux dans Terrebonne. On parle de TGV, de coût de la vie, de l'accès à la propriété, d'immigration. Comment on démêle tout ça? Comment on vend votre programme à l'électeur, à l'électrice?
Bien, tout ce que vous venez d'énumérer là, c'est l'ADN, c'est dans l'ADN du Parti conservateur. C'est nos chevals de bataille. Le coût de la vie, on en parle depuis longtemps, c'est notre cheval de bataille. L'accès à la propriété, notre cheval de bataille. Tout ce qui se passe à Terrebonne, les enjeux à Terrebonne, c'est notre cheval de bataille. Et aussi, j'aimerais souligner que à Ottawa, il y a de l'argent qui dort pour les circonscriptions. De l'argent qui dort que les députés ne prennent pas la peine d'aller chercher parce que ça demande... la bureaucratie est très lourde, il manque de temps pour aller faire ça. Ben moi, j'ai du temps à donner. J'ai du temps. Moi, mes enfants sont grands, ma carrière est faite. J'ai de l'énergie encore. J'ai de l'amour pour les gens. J'ai beaucoup d'empathie de par mon milieu d'où je viens. Donc, j'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux. Là, je suis dans les écoles. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Fait que je veux me donner... J'ai du temps pour aller attaquer ces programmes-là, aller chercher de l'argent pour les gens, pour les communautés. Il y a de l'argent pour l'environnement à Ottawa qui dort dans les coffres de l'État. Il y a de l'argent pour le communautaire. Il y a de l'argent pour les infrastructures. Et moi, j'ai le temps, j'ai l'énergie. Je me suis déjà battue contre plusieurs paliers gouvernementaux dans des appareils lourds. Donc, ça me fait pas peur. Je m'y connais. Fait que je suis prête. Voilà comment on affronte ces enjeux-là, au Parti conservateur.
Votre organisation cette année en 2026, là, Mme Charles, elle est différente. Il y a plus de bénévoles cette année?
Exactement. On a une grosse équipe. On a une grosse équipe de bénévoles. On est déjà présents sur le terrain. Nos pancartes s'en viennent. Et puis, j'ai beaucoup de monde très motivé derrière moi. Puis, beaucoup de gens engagés aussi. Donc, on va multiplier notre présence sur le terrain dans les jours à venir. Mais c'est déjà commencé. Allez faire un tour sur ma page de candidate Adrienne Charles, candidate du Parti conservateur pour Terrebonne. Vous allez pouvoir voir à quel point on se donne et à quel point on veut faire la différence à Terrebonne.
S'il y avait une chose que vous avez appris de votre expérience l'année dernière, ce serait quoi et qu'on voudrait peut-être répéter ou ne pas répéter cette année?
C'est de foncer. C'est vraiment de foncer, de continuer de foncer parce que la présence conservatrice, l'élan conservateur, comme j'ai dit tantôt, est bel et bien présente à Terrebonne. Alors, on est là pour ces gens-là. On est là non seulement pour les conservateurs, mais aussi pour tous ceux qui sont tannés, qui sont fatigués, qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Votez pour une candidate qui a du front, qui n'a pas peur d'attaquer, qui va aller vous chercher le maximum parce que je suis terrebonnienne. Terrebonne, pour moi, c'est pas un tremplin, c'est mon milieu de vie. Donc, je vais me donner à fond. Je serai présente pour vous sur le terrain. Je ne serai pas une candidate de photo. On ne prendra pas de photos parce qu'à l'heure actuelle, il y a un spectacle, je trouve, moi, à Terrebonne. Un défilé de ministres et tout. On veut mettre la poudre aux yeux aux gens. Mais moi, je suis une candidate réelle, une candidate vraie. Après le 13 avril, ce défilé de ministres-là ne sera plus là. Vous allez être encore là avec vos difficultés. Donc, vous avez besoin d'une candidate qui n'a pas donné dans le spectacle, mais qui a donné dans le vrai.
C'était la candidate conservatrice dans Terrebonne, Adrienne Charles, qui a rencontré Régent Turgeon.
Lanaudière PM, Première Nation.
Québec et la communauté atikamekw signent un énoncé d'intention quant à l'élaboration d'un projet pilote là, de gestion participative en foresterie. Et dans la Naudière, un premier pas en ce sens a été fait par le biais d'un protocole signé à la Syrie à Saint-Michel. Comme il l'a confié au collègue François Morin, le chef Sipi Flamand souhaite qu'on ira plus loin que de la simple intention.
Alors, Sipi Flamand, donc, entente avec le gouvernement du Québec, les communautés atikamekw, on parle effectivement d'une intention. Je me permettrais de dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne?
On souhaite fort que ça soit la bonne parce que ça fait quand même depuis plusieurs années, comme vous en souvenez, la mobilisation du kilomètre 60 avec le cas des érablières de la famille Dubé. À Manawan, ça s'entraînait beaucoup de discussions dans la communauté, mais aussi des mobilisations sur le terrain, puis également des discussions avec les politiques pour pouvoir apporter des changements dans les processus de consultation, mais aussi d'impliquer les familles bien en amont avant l'octroi des permis d'aménagement forestier.
On parle de l'élaboration d'un projet pilote. Effectivement, est-ce qu'on a quelque chose sur la table? Parce qu'on se souviendra qu'il y a à peu près un an et demi, il y a quand même eu des discussions qui ont été entamées avec le principal producteur dans la région, la principale forestière dans la région, Siri Saint-Michel. Est-ce qu'on est dans cette foulée-là?
C'est dans cet esprit que nous avons développé ce projet, cette entente-là avec le gouvernement du Québec. Puis nous avons un partenaire également dans ça où on veut développer une nouvelle approche de la foresterie tout en prenant en compte les valeurs puis aussi les pratiques traditionnelles sur le territoire puis également la faune. T'sais, c'est important qu'on puisse également s'assurer qu'il y ait des terrains spécifiques pour la bonne gestation des orignaux ou bien des lieux pour protéger, par exemple, des ours ou bien des animaux en tant que tels. C'était dans les discussions, c'était dans les demandes qui étaient faites par les familles pour pouvoir faire l'occupation territoriale également, puis le fait d'apporter des éléments de protection, il faut vraiment parler aussi l'implication des familles dans les processus de consultation, mais pas seulement des cartes préétablies, prédéfinies par les gouvernements, mais vraiment s'asseoir ensemble pour définir dans quelle partie du territoire où il faut faire des coupes forestières, puis dans quelle partie du territoire pour pouvoir protéger. Genre, cela va de soi si on parle d'harmonisation, puis aussi dans les consultations là, avec soit les industries forestières et le gouvernement du Québec.
Est-ce que votre partenaire, effectivement, est ouvert au dialogue? Parce qu'il y a déjà, je le répète, il y a quand même déjà une première étape de franchie.
Effectivement, on est en discussion quand même depuis plusieurs mois avant même qu'il y ait des crises sur le terrain en lien avec le projet de loi sur la foresterie qui avait été déposé en avril dernier. Je pense que c'était dans l'objectif de développer une nouvelle approche aussi également avec les industries forestières.
Est-ce qu'on s'est donné un échéancier?
On se donne minimum un an et demi pour vraiment définir le projet pilote, puis ensuite mettre en œuvre le projet final de la nouvelle approche de faire de la foresterie.
Voilà, c'était le chef du conseil des Atikameks de Manawan, Sibi Flamand, avec qui François Morin a parlé un peu plus tôt. Il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Autoroute métropolitaine pour Charles de Gaulle, un peu nombreux secteur du boulevard Henri Bourassa. Sinon, ça va très bien pour la suite des choses. On franchit aisément la rivière des Prairies, secteur Repentigny, 40, direction est, ça va bien. 341, la montée de l'Épiphanie entre la 40 et la rivière L'Assomption, là, c'est très lourd en ce moment. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord, Laval, un petit peu près la jonction avec la 440, là, c'est dense sur environ un kilomètres. On franchit facilement la rivière des Mille-Îles, secteur Île-Saint-Jean, ça va bien. Secteur Terrebonne, 25 Nord, c'est facile également. Mascouche, pont Sophie-Masson, ça va très bien en ce moment. Et finalement, autoroute 640, entre la 25 et la 40, direction ouest, on circule sans problème en direction ouest. C'est un petit peu lourd à partir de la montée des Pionniers pour la 40. Dans un moment, l'actualité avec Pierre Jubinville.
Venez célébrer l'arrivée du printemps à l'érablière Jean-Parent de Saint-Ambroise-de-Kildare. Au menu, jambon, bacon, sirop d'érable, tire sur la neige, ainsi que tous ces délicieux accompagnements qui ont fait la réputation de l'érablière Jean-Parent. Et tout cela à volonté. La grande famille de l'érablière Jean-Parent vous souhaite un sucré bon printemps. Réservation 450-753-3146. Pour plus d'informations, jeanparent.com. Apportez votre boisson. L'érablière Jean-Parent est située au 1571 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.
Bonjour, c'est Kim de Joliet Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant du Kicks Play S 2025, le véhicule le plus abordable au Québec à partir de seulement 22 774 plus taxes au comptant, incluant les frais de transport et de préparation. Nous avons plusieurs choix en inventaire de disponibles. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant 800 boulevard Basse de Roc à Joliette pour faire un essai routier. Joliet Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
C'est le moment parfait pour renouveler vos électroménagers chez Ameublement SG Dion. Profitez des jours d'économie GE et Profile et plus vous achetez, plus vous économisez. Obtenez 10 % de rabais à l'achat de 2 appareils, 15 % à l'achat de 3, 20 % à l'achat de 4 et jusqu'à 25 % d'économie à l'achat de 5 appareils et plus. Sur une sélection d'appareils de cuisine et de buanderie GE et Profile. Mais faites vite, l'offre est valide jusqu'au 25 mars seulement. Passez-nous voir chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Ameublement SG Dion, la qualité et le service près de chez vous.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitre. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
L'actualité de ce lundi 16 mars en manchette. Donald Trump a besoin d'aide. Le prix de l'essence poursuit sa lancée et la candidate conservatrice dans Terrebonne lance sa campagne. Mais tout d'abord, Pierre Jubinville, les citoyens de Saint-Cuthbert demandent à Hydro-Québec de revoir son tracé.
Oui, ils se mobilisent pour éviter qu'une nouvelle ligne électrique envisagée par Hydro passe sur le territoire de la municipalité. Déjà, une pétition circule. 700 personnes l'ont signée sur les 1900 citoyens de Saint-Cuthbert. Michel Arnois, vous avez rencontré des gens du coin?
Oui, Pierre, c'est la présence d'hydrocarbures dans les transformateurs du futur poste de transformation d'électricité qui inquiète les citoyens. Je suis avec Daniel Quirion, un citoyen qui risque d'être impacté si le tracé de Saint-Cuthbert est choisi.
Ça, un poste de transformation, ça représente des transformateurs contenant des hydrocarbures. Et on sait qu'au Québec, dans une zone intermédiaire d'une prise d'eau potable, il est illégal de faire une exploitation pétrolière. Mais Hydro-Québec va se permettre d'entreposer des milliers de litres d'hydrocarbures dans la zone intermédiaire de la prise d'eau potable de Saint-Cuthbert.
Il semble qu'Hydro-Québec n'ait pas tenu compte que le tracé passe au-dessus du bassin versant de la rivière Chico, qui est la seule source d'eau potable pour Saint-Cuthbert, et un déversement serait catastrophique. On écoute le maire, Richard Bellumeur.
Probablement, ça n'arrivera pas. Mais si ça l'arrive, on n'a aucune porte de sortie. On n'a aucun plan B, on ne sait pas quoi faire. Avec la fourniture de l'eau pour nos citoyens.
Hydro-Québec prendra sa décision pour le tracé d'ici quelques jours. Michel Arnois, Saint-Cuthbert, pour CFNJ Nouvelles.
Oui, maintenant, Pierre Jubinville, Donald Trump là, est enragé sur la scène internationale contre ses alliés.
Enragé noir, je devrais dire. Les alliés refusent que Claude de l'aider à sécuriser voyons, le détroit d'Ormuz. L'Allemagne et la Grande-Bretagne, entre autres, ont écarté son appel à une mission de l'OTAN pour rétablir la circulation maritime. Le président dénonce un manque d'enthousiasme de certains pays, alors qu'il y a peu de dangers, selon lui, qui souligne que pratiquement toutes les capacités iraniennes ont été détruites. Il affirme savoir depuis longtemps que des pays protégés par les États-Unis pendant des années ne seraient pas là pour eux.
Puis évidemment, un impact sur nous direct, c'est le prix de l'essence là, oui. Qui pourrait frôler les 2 $ sous peu. Là.
Oui, très bientôt, après des attaques américaines et israéliennes encore aujourd'hui, 20 % l'augmentation des prix. On atteint maintenant, en moyenne, 1,75 $, 1,79 $ à Joliette et 1,88 $ à Montréal, selon Patrick Gonzalez, qui est professeur agrégé au département d'économie de l'Université Laval. Il faut d'abord observer le prix du baril qui franchit maintenant le cap des 100 $.
Il n'est pas exclu que ça monte à 110, 120 $ puis pour chaque tranche de 10 $ vous pouvez compter 6-7 cents de plus au prix du gallon, au prix de du litre à l'essence. Donc, le 2 $ il est dans la mire quelque part, là, pas très loin sur l'horizon.
Et on s'en doute, les gens rencontrés dans des stations d'essence ne sont pas très contents.
Effectivement, que je trouve que c'est quand même assez haut, là. Je comprends un peu le pourquoi que c'est monté tant que ça, mais ça frappe pareil, là. Je vais prendre la pied le plus que je peux, puis je vais peut-être diminuer les journées que je rentre au travail.
Ouais, on voit très bien que c'est les conséquences directes de ce qui se passe avec les États-Unis en ce moment, là. C'était pas dur à prévoir non plus. Fait que merci, Donald.
Par de l'essence et en taxes, il faudrait peut-être que le gouvernement commence à penser peut-être à peut-être enlever la taxe de carbone, puis peut-être réduire les taxes, peut-être aider pas mal la population, je pense aussi.
Bien, je trouve que c'est ridicule, là. On est rendu qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est bien trop cher. Ça n'a aucun sens. Ça va s'arrêter où? T'sais, si on compare avec... J'étais en fin de semaine avec un cousin qui est à Ottawa qui paye beaucoup moins cher que nous.
Moi, j'ai une voiture électrique, donc je paye pas d'essence.
C'est la meilleure solution.
La chanceuse.
L'inflation est à la hausse, Pierre.
1,8% d'une année à l'autre en février. Au Québec, l'inflation est cependant plus importante avec un indice qui se chiffre à 2,8%.
Et finalement, lancement de la campagne conservatrice dans Terrebonne.
Elle affirme, Adrienne Charles, qu'elle peut faire la différence lors des élections du 13 avril. Elle est citoyenne de Terrebonne depuis 20 ans. Madame Charles rappelle qu'elle a doublé le vote conservateur lors des générales du 28 avril 2025, récoltant quand même 18% du vote, soit 10 941 électeurs. On va l'écouter.
Je ne suis pas une candidate poteau, je ne serai pas une plante verte. Moi, je suis prête à me battre pour Terrebonne. J'habite Terrebonne depuis 20 ans, je fréquente les rues de Terrebonne, j'ai élevé mes enfants à Terrebonne, mes parents habitent à Terrebonne, donc j'ai Terrebonne, j'ai l'ADN de Terrebonne dans le sang et je veux me battre pour Terrebonne parce que les décisions qui vont être prises pour Terrebonne vont me toucher directement.
Bon, ben voilà. Merci, Pierre Jubainville.
Semble déterminé.
Oui. 16h36.
Bonne soirée.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Environnement.
L'ex-ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, partage son analyse de la campagne électorale partielle dans Terrebonne. Là, il exprime son opinion là, sur le projet de train à grande vitesse de la société Alto, qui soulève, faut le dire, là, beaucoup d'inquiétudes dans certains milieux lanaudois, dont le secteur agricole. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer Stephen Guilbeault.
Écoutez, là, il y avait plus de députés libéraux à l'ouverture du local ce matin qu'il y a de députés du Bloc québécois élus au Québec. Alors, je pense qu'on est des centaines aujourd'hui pour l'ouverture de ce bureau-là et pour montrer à notre candidate, évidemment, Tatiana, qui est une candidate extraordinaire. Moi, j'ai fait du porte-à-porte avec elle pendant l'élection générale. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle au cours des derniers mois. Elle s'est impliquée, elle s'est investie, elle est là pour les gens de sa circonscription et on veut absolument qu'elle revienne avec nous à Ottawa.
M. Guilbeault, la majorité des libéraux à Ottawa n'est plus en jeu maintenant, on doit comprendre.
Bien, écoutez, il y a trois élections partielles. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la politique, mais ça fait assez longtemps que j'en fais pour savoir qu'il faut toujours se garder une petite gêne. Voyons ce qui va se passer avec les élections. Il semble que la majorité soit possible, mais ce serait, il faut bien comprendre, une majorité quand même très faible avec un vote. Donc, ça veut dire encore des votes très serrés, mais c'est une possibilité.
Les enjeux dans Terrebonne, oui, les enjeux nationaux, mais un enjeu dont Mme Tatiana n'a pas parlé tantôt, le fameux projet de TGV Alto qui passerait dans des terres agricoles ici. Il y a une mobilisation qui se fait là dans Terrebonne. Est-ce qu'on peut donner l'assurance que ce dossier-là sera bien géré à Ottawa d'une part et d'autre part qu'il n'y aura pas d'expropriation forcée et qu'on va revivre un autre Mirabel?
Ben, écoutez, là, je pense qu'il faut faire très, très, très attention. Le Bloc québécois mène une campagne de désinformation que je trouve absolument déplorable. Il va probablement y avoir des expropriations pour le projet Alto. On ne peut pas faire le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du pays sans qu'il y en ait. Mais si on compare à Mirabel, c'est peut-être quoi? 0,05%? On n'est pas dans le même univers du tout. Et c'est la plus grande consultation publique de l'histoire du Canada. On n'a jamais vu autant de gens participer à une consultation publique comme celle que Alto a lancée, soit en personne, soit on peut participer par Internet, si on veut, par vidéoconférence. Et ils veulent s'assurer de minimiser les impacts le plus possible de ce projet-là. Mais c'est un projet qui va avoir de très grands bénéfices, des bénéfices économiques, des bénéfices sociaux, des bénéfices environnementaux aussi, parce que ça veut dire moins de gens sur les routes entre Montréal et Québec, entre Montréal et Toronto, sur les routes autour de Montréal aussi, vers Ottawa. des bénéfices économiques très, très, très importants. Moi, c'est un projet que je supporte. Bien sûr, il faut que ce soit bien fait. C'est pas parce que c'est un bon projet qu'on peut faire ça n'importe comment, mais ce que je vois jusqu'à maintenant, moi, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de consultations publiques dans ma vie. Le BAP, j'en ai fait au niveau fédéral aussi. Et je trouve que celle-là, elle est très bien faite. C'est sûr qu'il y a une période un peu insécurisante parce que comme le projet n'est pas défini parce qu'on consulte, bien, il y a des endroits où la bande qui pourrait théoriquement servir pour le train est très large. Mais ça, en bout de ligne, on parle de quelques dizaines de mètres. Là, ça n'a rien à voir avec l'aéroport de Mirabel.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi sécuriser peut-être nos gens d'affaires qui ont eu à subir les tarifs douaniers de M. Trump depuis un an? Des jeunes familles qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, un coût de la vie qui va en augmentant. Comment les libéraux peuvent-ils rassurer les électeurs et électrices de Terrebonne que ces dossiers-là seront pris en considération?
Bien, il y a plusieurs choses que notre gouvernement a fait déjà pour aider, notamment avec les questions d'abordabilité, donc la baisse des impôts, par exemple, pour 22 millions de personnes, plusieurs mesures pour aider au niveau de l'alimentation, le logement. Et il faut se rappeler qu'au cours des 20 derniers mois au Canada, le salaire moyen augmente plus vite que le coût de la vie. Alors, les choses commencent à aller mieux, mais il faut continuer. Il faut continuer de mettre de l'avant des politiques publiques qui sont réfléchies et qui fonctionnent. Évidemment, quand on pense au logement, on peut pas construire des centaines de milliers de logements en criant ciseaux, mais on voit que ça avance, ça va dans la bonne direction. Continuons et assurons-nous d'avoir un gouvernement comme le gouvernement de Mark Carney qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. C'est pas avec Pierre Poilievre qu'on va réussir à faire ça. Et ce n'est pas le Bloc québécois qui va nous permettre de mettre en place ces mesures-là non plus.
On pense que ça pourrait être encore une élection serrée. Le Bloc est mobilisé, toute l'organisation du Parti québécois derrière elle. Vos prédictions?
En fait, je vous disais tout à l'heure que ça fait assez longtemps que je fais de la politique pour me garder une petite gêne. Moi, je pense que nous pouvons certainement gagner à Terrebonne. Il va falloir travailler fort et je pense qu'il n'y a personne ici qui prend quoi que ce soit pour acquis. Et il va falloir, cette campagne-là, elle va se mener porte par porte, mais on peut y arriver.
L'ex-ministre fédéral de l'Environnement, le libéral Stephen Guilbeault, là, à qui Régent Turgeon a eu l'occasion de parler justement sur ce projet de train à grande vitesse de la société Alto. Il est 16h42. Dans un moment, Pierre Paquette.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 30 juin 2026. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre partielle en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partiel, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
L'échappée Grill et Bar Sportif est de retour dans ton salon grâce à la livraison DoorDash. Profite de nos plats savoureux et de nos prix abordables pour te faire un vrai festin digne du resto directement dans ta cuisine. Découvre notre menu et l'horaire de livraison via nos réseaux sociaux. Ah ouais donc!
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 36 mois et profitez de taux aussi bas que 0,4% chez Joliette Nissan.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Pierre, on va parler de ce fameux détroit d'Ormuz aujourd'hui. Juste pour faire une situation géographique rapide pour les gens qui nous écoutent actuellement, c'est un détroit qui passe entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Et là, actuellement, du côté de l'Iran, on a décidé de faire un blocus. Et il n'y a pas grand-chose qui passe, il n'y a pas grand pétrolier qui passe. Et là, Donald Trump réclame l'aide des alliés dans le détroit.
Oui, exactement, ce qui est un peu contradictoire parce qu'il est parti en guerre avec Israël sans consulter personne de ses alliés. Alors évidemment, ils se font tirer un peu la barbichette pour y participer. Je ne suis pas convaincu, moi, qu'ils n'y participeront pas au bout du compte parce que il y a beaucoup de menaces qui sont faites par M. Trump. Mais effectivement, c'était une menace qui était connue que le détroit d'Ormuz serait bloqué. Les généraux américains avaient averti le cabinet du président Trump, qui, lui, s'est fié plus à son instinct qu'à la géopolitique. Parce que dans la partie la plus étroite, c'est 50 kilomètres seulement. Alors, mm-hmm. C'est quand même pas beaucoup à contrôler. Alors, ils mettent des mines, les Iraniens mettent des mines. Ils ont différents niveaux de mines. Il y en a qui sont à la surface, il y en a qui sont attachés carrément dans le fond de l'eau. Puis entre les deux, il y a des étages, je dirais, intermédiaires. Alors, donc,
il y a des pétroliers qui ont carrément sauté, là, faut le mentionner.
Ah, oui, exactement. Puis il y en a qui sont déjà très endommagés, qui, je dirais, contribuent à bloquer le détroit d'Ormuz. Alors, c'est pour ça que j'imagine que tous les pays qui ont été sollicités par M. Trump hésitent parce que il n'y a aucune garantie que ça se finisse correctement, cette affaire-là.
Et c'est le cinquième, il faut le mentionner, c'est le cinquième du trafic pétrolier mondial là, qui passe par ce fameux détroit-là. Et Donald Trump, aujourd'hui, se fait carrément, on peut dire, raccrocher la ligne au nez ou claquer la porte au nez là, par ses alliés.
Oui, exactement. Là, maintenant, il menace l'OTAN. L'OTAN n'a absolument rien à voir là-dedans. Là. C'est une guerre qui a été partie par les Américains, les Israéliens contre l'Iran.
Et même la Chine.
Pardon?
Et même la Chine.
Oui, même la Chine a été sollicitée parce qu'il faut voir que la plupart du pétrole qui passe dans le détroit d'Ormuz s'en va vers l'Asie. Il ne va pas ni vers l'Europe, ni vers l'Amérique. Il va vers l'Asie. Et donc, les Chinois sont la grande puissance économique de l'Asie. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que M. Trump a interpellé la Chine. D'autant plus, il est supposé y aller dans quelques jours pour commencer des négociations sur des traités de libéralisation du commerce. Et là, il menace de ne pas y aller si la Chine n'y participe pas. Moi, j'ai l'impression que s'il y a un des joueurs qui n'a pas besoin d'y participer, c'est la Chine. Les autres, c'est plus embêtant parce qu'ils sont membres de l'OTAN, que ce soit le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, le Japon et éventuellement le Canada. Mais tous ces pays-là, jusqu'à présent, ont répondu qu'ils n'étaient pas intéressés.
Non. Il est actuellement fâché noir contre tous ces pays-là. Donald Trump s'adresse d'ailleurs actuellement aux journalistes dans un long point de presse. Trump a imposé des tarifs. Il a joué au yo-yo depuis son retour au pouvoir avec tous les pays, avec ses fameux tarifs. Tout le monde est en beau mot juste contre Trump. Et là, Trump demande l'aide de ces pays-là. Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'y a pas l'aide de ces pays-là? Va-t-il réimposer d'autres tarifs pour les punir?
Il pourrait éventuellement le faire, mais là, je pense que de toute façon, ça n'a pas d'effet. Là, ce qui a de l'effet à court et moyen terme, c'est l'augmentation du prix du pétrole. On parlait la semaine dernière, est-ce que le prix du pétrole va dépasser les 100 $ le baril? On est maintenant au-dessus des 100 $ le baril. Alors, et évidemment, même si c'est pas du pétrole qui arrive au Canada ou aux États-Unis ou même en Europe, ça fait monter le prix mondial parce que le marché du pétrole, c'est un marché qui est mondial. Alors, on est indirectement touché par le fait que l'offre de pétrole en Asie a beaucoup diminué suite au blocage du détroit d'Ormuz. Alors, évidemment, ça amène toutes sortes de problèmes en termes d'augmentation des prix. Donc, l'inflation risque de repartir. Les taux d'intérêt vont suivre. Alors,
L'inflation, c'est parti carré, c'est clair, là.
Oui, c'est une spirale parce que du pétrole, on en a besoin pour tout. Je mange une tomate qui a été produite au Mexique. Ben, elle était transportée par soit un train, soit par un camion. Donc, il a fallu du pétrole. Donc, si le prix du pétrole augmente, le prix de ma tomate va augmenter. Et donc, tout va être affecté par ça. Et c'est tout à fait contraire à l'agenda que Donald Trump avait énoncé lors de la campagne présidentielle en disant que lui s'occuperait des problèmes d'abord des Américains et il souhaiterait des problèmes internationaux. Depuis qu'il est arrivé, c'est plutôt l'inverse. Il s'occupe de problèmes internationaux d'abord pour faire oublier l'affaire Epstein, mais aussi au détriment des conditions de vie des Américains, évidemment, de presque toute la population mondiale. Alors, c'est un échec lamentable. Je pense que ça commence à se répercuter sur non seulement sa popularité, mais les chances de réélection des Républicains aux élections de mi-mandat qui vont avoir lieu au mois de novembre prochain.
Et rappelons que tout récemment, Donald Trump disait que ce serait une guerre de très courte durée. Pas plus tard qu'en fin de semaine, il disait que c'était presque entièrement réglé là, du côté de l'Iran. On a gagné, on a vaincu, il reste presque plus rien à faire.
Ouais, c'est tellement contradictoire. Par exemple, pour les Iraniens, leurs réserves de pétrole pour l'exportation s'en vont sur une île qui s'appelle l'île de Karn, qui est un petit peu qui est dans le détroit d'Ormuz, un peu avant le détroit d'Ormuz, mais qui est à peu près à 30 kilomètres des côtes iraniennes, parce que près des côtes iraniennes, la profondeur de l'eau est pas assez importante pour que les pétroliers puissent venir. Donc, ils partent de là. Il les a bombardés, évidemment, depuis le début de la guerre, insensée et sans arrêt. Et là, il a annoncé en fin de semaine que ça serait la pire attaque au cours des prochaines heures. Donc, ça veut dire que même avec toutes les attaques qui ont été faites au cours des 17 jours que la guerre dure, ben, il a pas réussi à démanteler ses installations iraniennes. Donc, il est vraiment mal pris, là, parce que ça semble pas donner de résultats là où ça compte face à l'Iran. Et la guerre est loin d'être terminée.
Il risque pas de s'enliser, justement, dans cette guerre-là.
Ben, exactement. C'est d'ailleurs tout ce que tout le monde avait prévu. C'est pourquoi les généraux américains ne voulaient pas de cette guerre-là. Ils savaient très bien que quand ça commence, on ne sait pas comment que ça finit. Et là, on le voit très bien. Comment ça peut finir, là, maintenant que les ayatollahs disent qu'ils se rendront jamais... il faudrait qu'ils envoient des troupes au sol. Si c'est des troupes au sol, ben, il va y avoir des pertes. Il y en a déjà. Il y a à peu près, à ma connaissance, 16 militaires américains qui ont été tués. C'est peu comparé, évidemment, à la population iranienne et libanaise qui a été tuée. Mais c'est quand même beaucoup. Quand les cercueils commencent à arriver, c'est là où les problèmes se posent pour les présidents américains. Et ça va commencer à l'être. À moins, encore une fois, qu'il y ait un cessez-le-feu miraculeux. C'est ce que la Chine demande, la Russie. Et évidemment, tout ça fait l'affaire des Russes et des Chinois. Les Russes, on sait, parce qu'ils sont pris dans la guerre avec l'Ukraine. Puis les Chinois, évidemment, parce que ça leur permet de garder la mainmise sur la région asiatique.
En terminant, mentionnons rapidement que les Iraniens le menacent maintenant d'assassiner Benjamin Netanyahou, là.
Oui, mais ça, je suis convaincu qu'ils n'ont pas juste lui comme cible. Je voulais mentionner une chose avant qu'on se quitte, c'est que les deux grands prix qui devaient avoir lieu au Moyen-Orient, dans la région, là, ont été annulés.
Oui, tout à fait.
Alors, ça veut dire que quand même, les répercussions en termes de sécurité font en sorte que le Grand Prix de Bérem et puis de l'Arabie Saoudite n'auront pas lieu cette année. Alors ça, juste au plan de l'image, là, c'est la preuve que les Iraniens ont réussi à tenir tête aux Américains.
Merci beaucoup, Pierre Paquette.
Merci, à mercredi.
Lanaudière PM, environnement.
16h52, un nouvel organisme à but non lucratif dédié à la sauvegarde de l'environnement. Les Amis de la biodiversité du Crick à David est créé et l'objectif de cette organisation-là, c'est de faire du secteur du Crick à David en Matawini une aire protégée. Et on vient de lancer une campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche et François Morin en a discuté avec le porte-parole Thibault Quinchon.
A déposé auprès du gouvernement un projet d'aire protégée en 2024. Et puis là, le processus actuel, c'est que c'est dans des consultations. Puis nous, en parallèle, on continue à faire des activités. Et dans le fond, on vient de lancer une campagne de sociofinancement pour proposer des activités d'éducation à la nature, à l'environnement, et pour pouvoir essayer de rendre pérenne ce projet-là d'aire protégée pour les gens du coin, en fait.
Bon, justement, pour les gens du coin, peut-être même de l'extérieur de la région, peut-être expliquer là ce que représente le Crick à David en termes de biodiversité.
En fait, le Crick à David, c'est une vallée enclavée avec peu d'habitations. En fait, quand on rentre un petit peu plus loin dans la vallée, au début, il y a quand même des habitations. Donc, c'est un cours d'eau. Rien que ça, il y a comme un affluent, le Crick à David, c'est un affluent de la rivière Noire. Et puis, en fait, la rivière Noire, il y a souvent des périodes de crue. Et donc, en fait, on suppose ici qu'il y a un potentiel de rétention d'eau, en fait, en gardant des milieux protégés naturels. Il y a des arbres assez anciens. il y a des vieilles forêts qui n'ont pas été coupées depuis assez longtemps. Donc là-dedans, on sait très bien que les écosystèmes naturels ou, mettons, anciens permettent souvent un abri de plus de biodiversité. A priori, il y a la possibilité, en fait, ça crée un corridor écologique avec d'autres zones d'air protégées dans le coin. Nous, on a pu voir des espèces comme des balbuzards pêcheurs ou comme des pigargues à tête blanche. Et puis, on suppose qu'il y a beaucoup de bons habitats aussi pour de nombreux poissons, en fait.
Et ce qui est intéressant de constater en marge de votre projet, c'est qu'il y a plusieurs secteurs de la Naudière qui deviennent aires protégées. Les gens sont conscients là, de l'importance, et je le répète, de la biodiversité.
Ben oui, puis on a la chance, nous, dans le cadre de l'appel à projet dont je parlais, d'avoir une MRC, la MRC Matawini, qui a laissé passer plusieurs projets pour rentrer en consultation, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres régions comme la Mauricie. Puis en fait, c'est probablement aussi, je suppose, en tout cas, que c'est une raison de volonté de type de développement économique, en fait. Peut-être qu'il y a des endroits au Québec où, je sais pas, les compagnies forestières sont plus fortes ou comme l'économie est axée là-dessus. Mais nous, c'est sûr qu'on est une région qui semble avoir envie de développer un pôle plein air un peu plus...
À plus long terme, au niveau de l'air protégé comme tel, est-ce qu'on va quand même permettre une certaine forme d'accessibilité au grand public pour que tout le monde puisse en profiter?
Ben oui, nous, le statut qu'on a proposé au ministère, parce que dans le fond, il y a plusieurs types de statuts, ça s'appelle une réserve de biodiversité. Puis ça, souvent, ça permet les activités qui étaient déjà en cours, en fait, comme la chasse et la pêche, puis l'accès au territoire. L'affaire, c'est que c'est plus l'industrie qui pourrait éventuellement ne pas exploiter ce territoire-là. Mais en même temps, de toute façon, le ministère lui-même va faire des démarches et va faire des recommandations sur quel statut de protection doit être mis en place. Donc, nous, on a fait une proposition, mais après ça, c'est étudié dans le cadre des consultations, en fait.
Vous êtes en campagne de sociofinancement, évidemment, l'argent demeure toujours le nerf de la guerre, alors on invite la population là à vous soutenir dans vos démarches.
Oui, exact. Dans le fond, on est une tout jeune association, donc on est constitué en OBNL, et puis dans le fond, on veut rendre ça pérenne, on veut avoir un modèle d'affaires potentiellement, on veut pouvoir proposer des activités, on veut créer un parc qui met en valeur cette biodiversité, en fait, là, tout en la conservant. Mais pour ça, effectivement, ça prend un petit peu d'argent, donc on invite les gens à participer à la campagne de sociofinancement, puis celle-ci permettra, en fait, de pouvoir engager un coordinateur ou une coordinatrice, bien sûr, pendant quelques temps et pour créer un modèle d'affaires, justement, parce que là, on est tous bénévoles. Donc, prendre du temps pour créer un modèle d'affaires, pour aller chercher des sources de financement, etc., ça devient souvent compliqué. Et notre but et notre enjeu, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui pourrait pérenniser ce modèle-là, en fait.
Ça vous prendrait combien, justement, pour procéder à l'embauche de cette personne-là? Et on le fait comment, là? Comment on fait pour verser des dons?
Alors nous, on a visé, on a mis une visée de la campagne à 10 500, mais il faut savoir que chaque dollar que les gens donnent est doublé grâce à un programme empreinte positive auquel on a été approuvé. Et en fait, il faut aller sur le site de La Ruche Québec, qui est comme la campagne de sociofinancement québécoise. Et en tapant Parc naturel du Cric à David, on va pouvoir trouver la page correspondant à notre projet.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec Thibault Quinchon, qui est porte-parole de ce nouvel organisme, les Amis de la biodiversité du Cric à David, là, du côté de la Matawini. Il est 16h58, c'est le moment de saluer et remercier les collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Régent Turgeon, François Morin, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à Nicolas Bellemar qui s'amène pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Nous, on sera là demain à compter de 16h pour une autre édition de Lanaudière PM. Ciao!